nous l'écoutons avec un immense respect, et les paroles de Dieu, au-delà du texte que vous avez sous les yeux, et les paroles de Dieu, et puis, et les puissances aussi, pour ceux qui l'écoutent dans la foi et lui obéissent. C'est la démonstration qui va être faite au travers du cheminement de cet aveugle, Bartimée, le fils de Timée, on l'appelle comme ça. Paul, l'apôtre, quand il vient chez les Corinthiens, leur dit ou leur écrit plutôt, « Quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible, je tremblais de crainte. » L'apôtre Paul soi-même. Mais il ajoute, « Mon enseignement ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration manifeste de la puissance de Dieu. » Je lis dans Marc, j'aime beaucoup Marc. Marc est l'évangile le plus simple, le plus court, le plus direct, le plus proche de nous en quelque sorte. Il y a un petit mot dans Marc que j'aime aussi beaucoup. Il revient presque une dizaine de fois, aussitôt. Aussitôt, ça bouge. Et ça nous entraîne nous-mêmes à nous lever et à bouger. Alors on lit le texte. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta. Il dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Entre parenthèses, ça crève les yeux. Un aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi ? Rabouni, maître, répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, vas-y, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Jésus profite de la présence de cet aveugle pour, au-delà du fait qu'il en a grandement compassion, essayer de sentir quand même la situation de cet homme. À l'époque, tous les jours, tout son quotidien, c'est la même chose. La main tendue au bord du chemin. Il aimerait tellement être sur le chemin et que ça marche pour lui comme pour les autres. Alors Jésus en a compassion. Puis en même temps, quand on lit l'environnement du texte, le contexte, il faut le faire toujours pour bien saisir un message. Jésus est entouré d'aveugles. qui, eux, croient voir. Bible en main, la Torah en main. Les enseignants de l'époque, les savants, et puis les disciples, qui depuis 3 ans suivent Jésus, et qui sont toujours et encore victimes de leur cécité. Dans le même chapitre, donc il n'y a pas longtemps, il y en a deux qui s'approchent, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Jacques et Jean. Ailleurs, c'est ça, leur mère, mais ici, c'est eux. Ils demandent, ils ont demandé quelque chose, Jésus. Oui, quoi? On aime être assis, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite, dans ton royaume. Et le royaume, il vient, croit-il. Parce qu'on monte à Jérusalem, c'est la dernière semaine de la Passion, avant la Passion, c'est les rameaux. Il va être intronisé, Jésus. C'est pour ça qu'on l'acclame. On veut être de la partie. Alors, ce serait pas mal, hein? Toi à sa gauche, moi à sa droite. Hein? Obtenir un avantage de notre consécration à Jésus. Vous ne savez pas ce que vous demandez. L'un à gauche, l'autre à droite. C'est un brigand et un autre brigand. C'est cette place que vous réclamez. 3 fois de suite, 3 fois dans le texte, Jésus leur a dit qu'il allait mourir à Jérusalem, qu'il serait mis à mort. Mais ça, ça n'entre pas. Ils ne peuvent pas voir Jésus mis à mort. Ils ne peuvent pas croire Jésus sur parole. C'est Jésus qui a fait des guérisons, des miracles, etc., que la foule a acclamé. Non, ça ne va pas finir comme ça. Ce n'est pas possible. L'aveugle est assis, comme d'habitude. Alors, je fais marcher là ma sensibilité, mon imagination, parce qu'il n'est pas dit grand-chose, hein, mais je le vois assez résigné. Il a perdu la vue, puisqu'il va la recouvrer. Donc, il a connu avant, il sait ce qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il a le moral au 36e dessous. Il est à Jéricho, tout près de la mer Morte, 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Chaleur torride. Avec pas mal de parfums, c'est la vie des parfums, mais la belle affaire quand on est aveugle des parfums. Lui, il est assis. C'est un assisté. Un assisté. Et pourtant, de toutes parts, on raconte ce que Jésus a fait. Bartimée n'a rien vu, bien sûr, mais il a l'ouïe exercée, particulièrement chez les aveugles. Alors il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, dans les moments importants, notre vie de chrétien, souvent, moi ça m'arrive en tout cas dans toutes mes étapes, j'ai eu avant, dans les temps qui ont précédé, les mois, le pressentiment intérieur que quelque chose allait changer, qu'il y aurait du nouveau. Et je l'ai encore vécu 6 mois passés. Et lui, il pressent que c'est son heure, décisive, déterminante pour son avenir. Alors il va user d'une audace folle, il crie, puis il met le paquet, hein, parce que la foule, C'est un peu comme ce matin, quand on priait là devant, pour se faire entendre, il aurait fallu crier, presque. Il crie. Aussitôt, Jésus l'appelle. Parce qu'il l'a entendu. Non. Aussitôt, les gardiens du bon ordre qui ont programmé le cortège, ceux qui ne veulent pas qu'on dérange l'ordre du culte, chicane un tout petit peu, les bien-pensants, qui n'attendent qu'une chose, le grand jour aussi de l'intronisation de Jésus. C'est ça qui compte, quelque chose de magnifique. Alors qu'un pauvre type là, au bord du chemin les arrête et se fasse manifeste, c'est vraiment peu convenable. Un peu comme si tout à coup quelqu'un me disait, on a entendu le texte, il y a un miracle, maintenant Paul, tais-toi, on passe aux actes, qu'est-ce qu'on propose ? Vous voyez, quelqu'un qui se lève, qui m'interrompt, vous pouvez le faire. Il faut oser, Il faut oser, On en parlerait longtemps, mieux de sa prédication, quand il est venu, on l'a coupé la parole. Peut-être j'oserais, moi, je ne sais pas. À moi-même. Et au lieu de se laisser arrêter, sa foi grandit, c'est des obstacles sur sa route qui fortifient sa foi. Entre parenthèses, que dire de la recherche des signes concrets de la présence de Dieu ? Il y a parfois des dangers. Poursuite du miraculeux, de cette évolution naturelle. Mais, si danger il y a, je pense que c'est rien comparé à une religion qui serait totalement privée de l'expérience des interventions de Dieu. Privé d'exaucement précis, de bénédiction sensible du Seigneur, et qui nous pousserait à la louange, à la reconnaissance, soit en intimité, comme ce matin, par Marguerite, en public. À travers un petit camion. Ces expériences de foi, de réponse de Dieu, stimulent notre foi. Elles ont leurs limites, bien sûr. La guérison, quelle qu'elle soit, a ses limites. On est tous des malades en puissance. Le fait qu'on vive alors que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez, vous mourrez, on est des morts en puissance. Et la mort, c'est la maladie totale que Jésus a vaincue. Il y a des guérisons partielles. Les yeux purulents de l'apôtre Paul, qui rendaient assez répugnants de près. Ça n'a pas été enlevé apparemment. Les maux d'estomac de Timothée. Ce n'est pas une mauvaise chose pour nous, parce qu'avec toute la réclame qu'on fait contre le vin, ces temps, avec des idioties qu'on nous fournit parfois, pas contre l'abus du vin, mais contre un bon verre de vin, à Timothée, Paul dit, prends un peu de vin, pas du sirop, mais de vin, à cause de tes fréquents maux d'estomac. Il a toujours des maux d'estomac. Il est fragile de l'estomac. Il aurait pu le guérir. Et puis Trophime, le célèbre Trophime, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il n'a pas fait un miracle. Et puis il y a les y a les maux dont nous souffrons par manque d'exigence envers nous-mêmes. À la Sainte Cène, Paul dit aux Corinthiens, il y a parmi vous beaucoup de malades. Mais beaucoup de malades. Plusieurs même sont morts. Et il y a des infirmes. C'est sérieux tout ça. Et l'idée que le chrétien pourra atteindre la guérison toujours, en toutes circonstances, sans condition, sans obéissance, sans repentance, n'est pas biblique. Pas biblique. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Par contre, l'enseignement qui fait de la guérison un pendant du salut, ça c'est biblique. Jésus a porté nos péchés, mais nos maladies aussi. Et quand il entre dans le ministère, les guérisons qu'il opère sont une confirmation de son autorité divine. On veut le faire taire. Ah ben non, sa foi grandit. Et il hurle, Fils de David, aie pitié de moi. Je ne peux pas crier plus fort. Mais lui, Jésus, l'entend, ou il avait déjà entendu, il l'entend. Appelez-le. Non, avant il y a quelque chose de formidable. Parce qu'ils sont en train de marcher, hein. Il y a quelque chose de formidable. Tu es là? Oui, regardez les deux premiers mots. À lire comme ça, vous ne vous laisseriez pas arrêter. Jésus s'arrêta. Un aveugle a la capacité, par son cri, de faire arrêter Dieu lui-même en Jésus-Christ sur le chemin. C'est... Il n'y a pas de mot pour dire ça. Jésus s'arrête. C'est Dieu qui s'arrête. C'est Dieu qui est sur la terre en la personne de Jésus. C'est Dieu le Créateur. C'est Dieu qui nous a donné un corps et qui ressuscitera nos corps. Dieu s'arrête. Et Dieu, Jésus-Christ, rend honneur à cet homme que peut-être beaucoup méprise. Il le prend au sérieux. Il s'intéresse vraiment à lui. Alors l'autre, il jette son manteau. Ça peut être un détail vu par un témoin oculaire. Il y a des grands théologiens qui disent, comme Bultmann, que ce texte est une légende. Je ne le crois pas. Le détail, c'est le témoin oculaire. Il jette son manteau. L'enveloppe, quand il fait froid, c'est... Alors symboliquement, ou symboliquement si vous voulez, on pourrait imaginer que le manteau représente tout ce qui freine la marche, tout ce qui l'empêche d'aller à Jésus. Alors qu'est-ce qui nous empêche de courir? Ce qui nous arrête, nous, à l'heure de faire un acte de foi? Bon, d'abord nos raisonnements. En tout premier lieu, Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur les discours, les raisonnements de la sagesse humaine. On raisonne. Excusez-moi, mais Luther, qui n'était pas gêné d'employer des termes un peu forts, disait la raison, c'est la putain du diable. La prostituée du diable. Et il y a tout un texte là-dessus, très intéressant. Il y a nos excuses logiques. Il y a si longtemps que ça dure, à mon âge, dans ma situation. Des objections spirituelles, mais on a déjà souvent prié pour moi. Oui, le Seigneur dit qu'il m'aime, et puis ses promesses, ben, je ne les vois pas s'accomplir. il y a de l'injustice. Oui, en théorie, c'est bien beau. Un jour, moi, j'irai vivre en théorie, parce que en théorie, tout va bien. Puis j'ai le vice, aller vivre en théorie. Comme en Italie. En théorie, tout se passe bien. Au contraire, Bartimée vit ici et maintenant. Mais la parole du Seigneur le dynamise. Il dit non à son statut apparemment immuable. Il dit non à tout ce qui pourrait le retenir. Et il y a un renoncement qui est essentiel à qui veut se consacrer à Jésus et le suivre. Combien de fois nous sommes arrêtés par ce qui nous empêche d'obéir au Seigneur, donc d'expérimenter les grâces concrètes du Seigneur. Elles touchent à notre confort, ces empêchements, à nos aises, à mon besoin de sommeil, plus qu'à mon aspiration au réveil, à l'invasion des soucis de la vie, dit l'apôtre Paul, au matérialisme, à l'attrait des loisirs, à l'euphorie perpétuelle dans laquelle veulent nous entretenir les masses médias, la distraction plutôt que la conversion. Puis au refus de l'effort que demande une pleine participation à la vie de l'Église. Nous sommes indolents parce qu'indulgents. Je dis bien nous. Alors à quel moment le miracle, parce que le miracle a lieu, hein, commence pour Bartimée? Pas au moment où il est devant Jésus, bien avant, dès le début. L'éveil de sa foi, quand il entend que Jésus passe, il y a quelque chose qui se passe en lui, qui se réveille, qu'il fait au juste moment bondir, comme un ressort, rien ne retient plus. Que veux-tu que je te fasse? J'aimerais remarquer encore ceci. On m'a donné 3 quarts d'heure, j'en prenais que 2. Je cherche où j'ai mis ce que je voulais ajouter là. Oui, les miracles de Jésus se passent de différentes manières. Le serviteur du centenier de Capernaum, il le guérit à distance. Parfois, c'est un geste physique. Un autre aveugle lui met de la boue sur les yeux. Il y a l'imposition des mains des apôtres, de l'Église, aujourd'hui l'onction d'huile. Mais l'accent ici n'est pas mis sur la forme, mais sur la foi. Cet homme qui est mené à incandescence. Que veux-tu? C'est une question fréquente dans les récits de guérison. Et s'instaure alors un dialogue avec Jésus. Ce n'est pas une action miraculeuse sans que Bartimée soit pour rien. L'autre, le malade, le souffrant, est totalement respecté. Jésus ne s'approprie pas le désir de l'autre pour en faire une œuvre spectaculaire à sa propre gloire. Et Bartimée retrouve sa dignité. Il est traité comme un homme complet, un être humain. Il est honoré. Il est honoré. Que veux-tu? Bartimée veut être guéri. sortir sa vie au rabais. Entre parenthèses, on pourrait épiloguer, il y a des gens qui veulent guérir, mais au fond, tout au fond, ils se complaisent dans leur état, surtout s'il ne leur fait quand même pas trop souffrir, parce qu'ils sont à cause de cet état l'objet de beaucoup d'égards, d'intérêt, de compassion, les plaintes, etc. Et il y a tout un climat qui peut s'instaurer autour de quelqu'un. Plus ou moins inconsciemment ou consciemment, ils ne désirent peut-être pas tellement en sortir, c'est-à-dire rentrer dans le rang comme les autres. Tous jouent ici, que veux-tu? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Veux-tu vraiment ce que tu veux, à n'importe quel prix? Tu vas devenir participant à ta guérison, pas l'atteindre comme ça, qui tombe du ciel. Que je recouvre la vue. À l'instant, il recouvre la vue. Et Jésus lui dit, non pas, je te guéris, et là encore, ça mériterait de prolonger la réflexion, ta foi t'a guéri. C'est fantastique, ça. Hein? On traduit parfois, ta foi t'a sauvé, mais on peut traduire, c'est le même mot, ta foi t'a guéri. Parce que tu as mis en mon nom un mouvement des énergies, des forces qui t'ont été données, elles sont d'ordre créationnel, elles viennent de Dieu, mais tu les as mises en œuvre en mon nom. Alors, on ne peut pas en distinguer plus, mais il y a une action du Seigneur et de sa parole puissance. La parole de Dieu est une puissance. Et puis, la mise en œuvre des forces de cet homme. Et il se mit à suivre Jésus. Un disciple de plus, qui a dû devenir un homme assez important, puisque lors de la mort de Lazare, on fait des reproches à Jésus, et on lui dit, si tu avais été là, tu aurais pu le guérir comme tu l'as fait pour l'aveugle. On cite l'aveugle. Peut-être un disciple. Puis ici, c'est Jésus, oui, il le suit jusqu'où ? À Jérusalem. Il le suit à la croix. On peut croire, espérer, peut-être même être certain, qu'il va entrer lui-même. Ayant connu cette mort à lui-même, cette nuit, ces ténèbres, et ayant retrouvé la lumière, que spirituellement aussi, il passera dans la lumière de la résurrection. Et qu'il pourra dire un jour, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai? C'est vrai de nous, hein? C'est Christ qui vit en moi. Je vous invite à prier. Fermons nos yeux. Et puis entrons dans une attitude de passivité, mais de disponibilité. Déposons aussi, tant que c'est possible, notre manteau, notre faiblesse, notre regard sur nous-mêmes, l'analyse que nous faisons de nos situations, nos maux. Dès le début de la louange, nous avons chanté « Jésus, tu es là, Jésus, tu es là ». Nous percevons ton appel, Seigneur. Prends courage, lève-toi Il t'appelle. Le mot lever est un mot très fort. C'est le même mot que ressuscite. C'est le même mot. Entre dans ce mouvement de vie nouvelle. Seigneur, nous entendons cette parole. Nous tenons en silence devant toi, te laissant nous dire ce que tu nous dis. À chacun personnellement. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je ne peux pas tout lui demander. Il y a une chose que je lui demande ce matin. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Prends courage. Lève-toi. Jésus t'appelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous te bénissons, Seigneur, dans la certitude que tu es là. Tu nous vois au bord de notre chemin, là où nous sommes arrivés, là où nous avons la peine à marcher, où nous tâtonnons, où il y a peut-être un obstacle qui nous freine. Tu connais toutes choses. Tu n'as rien demandé à Timothée, à Bartimée. Tu n'as pas expliqué pourquoi il était dans cet état, ce qui lui était arrivé. Dans ta tendresse, tu l'as simplement dit par les disciples qui sont faits les médiateurs de ton appel. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Tu l'as simplement dit, exprime ce que tu veux que je fasse pour toi. Jésus, nous t'acclamons, nous te louons. Je te remercie d'être parvenu jusqu'ici ce matin. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Et le prophète dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Que le faible dise, je suis fort. Ce sont les paroles de l'Écriture. Et tu viens les confirmer dans notre esprit, notre âme et jusque dans nos corps. Que soient ainsi bénis ce matin tous ceux qui s'attendent à toi pour aller plus loin. En ton nom, Jésus. Amen.